Vous écoutez France Inter, il est 14h05, tout de suite CO2, mon amour, avec vous, Denis Chessou.
Mais bonjour. Oui, cher Dominique Delaroy, sans grippe et avec une avalanche, on va dire, à la fois de bien-être, de coups de gueule, de coups de cœur. Enfin, vous allez voir donc, dans ce magazine, une fois de plus, avec différents sujets. Merci à vous, on vous retrouve pour les informations de 15h.
Dans les couloirs.
Je t'emmène dans ce qu'on peut appeler le labyrinthe du pic ou comme certains l'appellent le vaisseau des étoiles ou encore la ville à 3000 mètres d'altitude. Parce qu'il y a quelques chiffres qui donnent vite le tournis. Ici, il faut savoir qu'au pic, on a 1 hectare de plancher et 5 km de couloirs. Voilà. Et surtout, là où je t'amène, c'est sous la coupole du télescope de 1 mètre. Ouais. Donc c'est encore l'étage juste au-dessus. Il a la particularité quand même d'avoir mis le pic du Midi, on va dire, au sommet de l'astronomie internationale dans la fin des années 60. Ouais. C'est-à-dire qu'il a participé à la cartographie de la Lune pour les missions Apollo.
Eh bien, nous allons grimper tranquillement dans ce pic du Midi de Bigorre. Nous allons être dans les Hautes-Pyrénées pour découvrir cette réserve de ciel étoilé avec différents interlocuteurs. Ce sera notre reportage. Bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement parce qu'on n'attend pas le changement, mais que nous sommes nous-mêmes le changement. À la technique, il y a David Federman et Alexandre Bergel et assisté de Jérôme Boulet. Je n'oublierai pas Albert Hook. Christophe Imbert réalise cette émission. Je vous ferai le menu de l'émission dans quelques instants. Alors, c'est vrai qu'on n'arrête pas de déplorer qu'il n'y a plus de croissance. Eh bien, ce n'est pas le cas pour toutes les activités. Ainsi, le trafic d'ivoire se porte plutôt bien depuis 1998, puisqu'il a triplé. Parallèlement, alors c'est très curieux, de 1985 à 2010, les populations d'éléphants d'Afrique chutaient de 70%. Ah bon ? Oui, mais on vous rassure, il n'y a aucun lien entre l'inversion de ces deux courbes. Non, c'est tout simplement dû à l'extrême paresse physiologique de l'éléphant. Eh oui, que voulez-vous ? Une gestation de 23 mois, un seul petit à chaque portée, une phase d'allaitement qui s'éternise durant 3 ans, c'est pire que des tanguis, ça. Et pour couronner le tout, un intervalle entre deux naissances pouvant atteindre la décennie. Ça ne facilite pas la prolifération des bestiaux. C'est même à se demander si les éléphants ne cherchent pas purement et simplement à disparaître. Comment imaginer qu'un braconnier conquis aux thèses du développement durable puisse les mettre en pratique avec un tel canevas de départ ? Les pachydermes donc pourraient peut-être accélérer un poil la cadence et se mettre au tempo qu'exige la modernité. Les éléphants, si vous mettiez un peu à vous reproduire, ce serait au lieu de pleurnicher que vous êtes juste des animaux sans défense, c'est amusant, ce serait pas plus mal. D'ailleurs, vous n'avez pas encore compris que moins il y aura d'éléphants sur la planète, plus le prix de l'ivoire atteindra des sommets insensés, incitant donc de fait à amplifier la spéculation et le braconnage. Alors Babar et le maire, l'offre et la demande, ça vous dit quand même bien quelque chose. Ne me dites pas que vous avez séché les cours d'économie libérale dans la savane et que vous avez écouté que Bernard Maris quand même. Bon, alors on vous l'accorde. Il y a une procédure pleine d'humour qui fait pencher la balance du côté du massacre. Les ventes aux enchères d'ivoire, soi-disant post-coloniales, se multiplient dans les salles des ventes et sur les sites internet. Les défenses d'éléphants proposées sont ainsi qualifiées d'ivoire pré-convention par les vendeurs et les commissaires-priseurs extrêmement peu scrupuleux. L'ivoire pré-convention, c'est quoi cette jolie trouvaille ? Ça signifie que ces ivoires sont censés avoir été acquis avant 1976 et l'entrée en vigueur des règles internationales sur le commerce des espèces de la faune, de la flore sauvage menacée, d'extinction. Et donc, il n'y a pas lieu d'y regarder de plus près. L'animal étant mort depuis des lustres, pourquoi ne pas jouer à la marchande, ou plutôt à l'antiquaire, avec ce que le défunt bestiau possédait de plus précieux aux yeux du collectionneur, bien sûr. Alors généralement, les certificats produits sont à peu près aussi authentiques qu'un carré d'as sorti de la manche d'un joueur de poker. Et comme les personnels chargés de contrôler la conformité de ces pièces ont d'autres chats à fouetter, la tentation de blanchir de la quenotte d'éléphant fraîchement abattue et de la faire passer pour de l'antiquité peut être forte, sinon irrépressible. Comprenez bien mon bon monsieur, avec le marché asiatique qui s'ouvre sans retenue, l'ivoire en vente devient comme par magie systématiquement de l'ivoire pré-convention. Pour stimuler le commerce, commerce, d'aucuns seraient sans doute prêts à le qualifier de pré-colombien. Bah oui, allons jusque-là. Alors devant ces pratiques qui sont proches du tour de passe-passe, 37 ONG du monde entier prennent la défense de ces pauvres bêtes. Et notre ministre de l'écologie, Ségolène Royal, était très bien parce qu'elle a annoncé l'interdiction des ventes aux enchères d'ivoire très très vite. De la fermeté vis-à-vis de ces arrangements complices en matière de certificats qui trompent sans vergogne est appréciée et que l'on parvienne dans cette jungle de certificats frauduleux enfin à y voir plus clair.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessoux sur France Inter.
Et donc vous l'avez entendu, en ce début d'année, on va empêcher les étoiles de tomber. Et ben oui, nous allons nager dans les étoiles du pic du Midi de Bigorre, dans cette réserve internationale de ciel étoilé, chère aux astronomes, mais donc aussi aux gens qui s'intéressent à l'écologie. Vous allez comprendre bien sûr pourquoi. Terre sauvage, dans ce numéro de février, eh bien nous offre le lien entre l'art et la nature qui est indispensable. Éric de Kermel avec nous en parlera. Nous parlerons aussi du nouvel Eldorado de la finance. Frédéric Danhé décryptera l'actualité. Vous allez bien, cher Frédéric?
Mais je vais très bien, vous-même, Denis.
Bon, pas mal, vous voyez. Hein, donc mieux qu'un éléphant, en tout cas, c'est sûr. Et puis, on va s'intéresser là aussi avec une actualité concernant les pesticides. C'est un sujet tout à fait récurrent, parce que les doses de pesticides dans les champs de France n'ont jamais été aussi élevées. Bon, la France est le troisième pays consommateur au monde, malgré les risques encourus que l'on connaît, sanitaires, pollution de l'eau, biodiversité, émissions de gaz à effet de serre, j'en passe et des meilleurs. L'objectif fixé par le plan Ecophyto, lancé en 2008 dans le cadre du Grenelle de l'environnement, c'était de réduire de moitié alors donc les herbicides, fongicides et autres insecticides pulvérisés d'ici à 2018. Donc c'était ça l'idée. 6 ans après son lancement, qu'est-ce qu'on constate? Que le recours aux pesticides a cru de plus de 10% entre 2009 et 2013, avec un bond de 9,2% entre 2012 et 2014. Donc on fait un petit point avec vous. Bonjour à vous François Vaillerette, parce que vous êtes le président de l'association Génération Future.
Bonjour. Effectivement, le plan Ecophyto, il n'a pas fonctionné. On l'avait déjà dit l'année dernière, le ministre avait annoncé une soi-disant baisse de l'usage des pesticides. On avait dit non, vous savez pas bien compter, vous n'avez pas pris en compte toutes les remontées de terrain. Et en fait, déjà, ça commençait à stagner et à légèrement augmenter. Cette année, ça s'est encore aggravé. Donc, il y a un échec du plan qu'il faut constater. Après, la question, c'est pourquoi ça fonctionne pas? Si les alternatives n'existaient pas, qu'il n'était pas possible de se passer de pesticides, eh bien on arrêterait de perdre notre temps. Il se trouve que ce que nous a appris la première partie du plan Ecophyto, c'est qu'au contraire, les alternatives, elles existent la plupart du temps, notamment dans les grandes cultures. Les grandes cultures, ça représente 70% de l'usage des pesticides. On sait, là, dans ce type de culture, qu'on peut réduire de moitié, voire même encore plus, l'usage des pesticides, tout en gardant des systèmes qui sont rentables, voire même en augmentant la rentabilité des exploitations. Il y a des groupes d'agriculteurs qui l'ont montré, on a des résultats agronomiques qui sont satisfaisants, environnementaux qui sont très bons et économiques qui sont bons également. 4 années sur 5, ces agriculteurs-là gagnent plus d'argent que les autres.
Mais alors, changement quand même de comportement, changement aussi de mentalité avec tout ça, une fois de plus ou...
Oui, la question qui est posée aujourd'hui, c'est comment on fait pour transférer à l'ensemble de la profession ces connaissances qui ont été développées un peu partout sur ces systèmes de culture. Aujourd'hui, on constate que ça marche pas. Ça marche pas parce que les dirigeants du monde agricole, FNSE en tête, ne jouent pas le jeu quand on les entend. Il y a des paroles, bon, on voudrait bien, etc. Mais en fait, ils sont toujours en train d'essayer de trouver des excuses pour expliquer pourquoi et on ne peut pas réduire. Donc en fait, ils n'y croient pas. Je crois que c'est la première chose. Certains d'entre eux, de ces acteurs majeurs du monde agro-industriel, non seulement n'y croient pas, mais investissent dans la production des pesticides. C'était le cas de la grande coopérative Invivo il y a quelques jours. On a appris qu'ils investissaient dans les structures de production de pesticides en France pour, soi-disant, favoriser leurs approvisionnements. Donc ça veut dire qu'ils sont toujours dans le même modèle d'agriculture hyper intensif, dépendant des pesticides. Tant qu'on n'aura pas changé ce logiciel-là, on aura du mal à atteindre l'objectif de réduction. Nous, on demande au ministre d'aider au changement de logiciel en imposant, si vous voulez, un système de taxation qui récompense les bons acteurs qui font des efforts et qui ont des résultats remarquables, et puis en taxant ceux qui ne veulent faire aucun effort. C'est le bonus-malus, la carotte et le bâton qu'on applique dans bien des secteurs et qui donnent des résultats, puisque force est de regarder, l'appel au volontarisme n'a pas fonctionné depuis 2009. Donc il est temps de passer à la vitesse supérieure, continuer la recherche, mais surtout développer les résultats que la recherche produit. Et là, aujourd'hui, je veux dire, dans les grandes cultures également, en viticulture, on a des modes de conduite qui permettent de diminuer fortement l'usage des pesticides, mais mais il faut encourager les gens vraiment à le faire, y compris avec une pression amicale, mais néanmoins qui incite les gens à aller vers ce type de système.
Et puis François Bayret, dans son nouveau plan Ecophyto, donc Monsieur Le Foll ne se prononce pas pour l'interdiction de nouveaux insecticides de la famille des néonicotinoïdes. Et pourtant, c'est vrai qu'on a été en avance, on en a quand même pas mal interdit, mais là de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose.
Alors c'est regrettable parce que ce sont ces insecticides-là qui sont responsables du dépérissement des colonies d'abeilles. C'est une catastrophe, on le sait, écologique et aussi économique. Et on s'aperçoit maintenant qu'ils ont également, de nombreuses études commencent à nous montrer des effets possibles sur les mammifères et sur l'homme, mais sur le développement notamment du fœtus et du système nerveux. Ce type de pesticides, les néonicotinoïdes, ont la capacité non seulement d'impacter le système nerveux des abeilles, mais aussi celui des mammifères en développement, donc le jeune enfant. Donc c'est une question d'environnement, mais pas seulement, une question de santé publique. Et là, Stéphane Le Foll, s'il veut réduire l'usage des pesticides et réduire les risques liés aux pesticides, il devrait d'urgence porter cette parole très très fortement au niveau européen. Il faut retirer ces produits qui sont trop dangereux, qui n'ont rien à faire dans une agriculture moderne.
Le point positif, les volumes ne sont évidemment pas les mêmes, c'est les phytosanitaires qui sont employés dans les communes. Là, de plus en plus, on enregistre effectivement une baisse dans les jardins, les espaces publics. Je tiens d'ailleurs à signaler que la région, justement Bretagne, le conseil régional a été tout à fait en pointe dans ce domaine depuis déjà pas mal de temps, mais il y a beaucoup maintenant de communes partout en France. Donc les zones, on va dire non agricoles, enregistrent quand même une baisse entre 2012 et 2013 de près de 8%. Voilà. Donc, et la loi aussi.
Je vais vous le souligner. Et là, il y a du volontarisme également du côté des politiques, puisqu'on parlait du sénateur Joël Labbé tout à l'heure, qui a réussi à faire passer une loi, votée gauche comme à droite d'ailleurs, pour à terme interdire l'utilisation des pesticides dans les espaces verts et aussi leur utilisation par les jardiniers. Et il semblerait que la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, veuille accélérer la mise en œuvre de cette loi. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, il faut que l'agriculture, qui représente quand même 90-95% de l'usage des pesticides, suive cet exemple et rentre de plein pied dans le 21e siècle. Un siècle, la chimie soit pas le recours absolu pour gérer le végétal, mais soit le dernier recours.
Et puis on espère que dans 10 ans, on n'en parlera pas dans cette émission. C'est pas forcément gagné. Donc Frédéric Noé, petit décryptage pour la suite, on va dire plutôt.
Non, c'est pas gagné en France. On utilise on déverse 3,4 kilos de pesticides, herbicides et autres produits chimiques par hectare. L'objectif du gouvernement est de diminuer de 25% le chiffre que je viens de vous donner d'ici 2020 et de 50% d'ici 2025. Apparemment, c'est bien entamé, si j'en crois le ministre, dans les 2000 fermes pionnières où on a constaté une baisse de 12% en 2013. 2000 fermes pionnières qui deviendront 3000 bientôt. Il est vrai, à écouter ce que dit François Veilleret est très juste. On en a parlé dans cette émission à propos des sols. Il y a plein d'agriculteurs qui sont en train de basculer, qui cherchent des infos et qui ont du mal. Et qui, effectivement, après quelques années, constatent tous qu'ils ont moins besoin de ces produits chimiques. Il n'en reste pas moins que globalement, c'est un échec parce qu'en France, on fait beaucoup de pommes, on fait beaucoup de vignobles, on fait beaucoup de betteraves, on fait beaucoup de patates. Ce sont les cultures qui sont les plus pulvérisées. Sur une patate, il y a 14 à 17 passages. C'est beaucoup. Donc achetez plutôt de la patate bio. C'est un ch'ti qui vous parle.
Ben oui.
Parce que les frites aux pesticides, ça le fait pas. Une des solutions évoquées par...
Déjà la frite, c'est pas...
Si, la frite c'est très bien, mais d'accord. C'est au gras de bœuf, je tiens à le préciser. Ne faites pas des frites surgelées. Oui. Une des solutions évoquées par François Veilleret est déjà dans le programme, a plus ou moins été annoncée par le ministre, ce sont les certificats d'économie de produits phytosanitaires. Je le fais très 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 court, c'est-à-dire que les fabricants et les distributeurs gagneront plus d'argent à moins vendre de produits phytosanitaires et à plus vendre de services, exactement comme les certificats d'économie d'énergie qui sont appliqués aux vendeurs de pétrole et d'énergie. Aujourd'hui, le but, ce serait donc d'atteindre une économie de 20% d'ici 2020 par ce système purement de marché calqué sur le système du marché du carbone.
Vous avez bien mérité un Nathan Cole. C'est pas mal. Et puis après, je vous emmène, donc deuxième volet, nous allons partir dans le pic du Midi de Bigorre, enfin, au sommet, et on va voir cette réserve donc, de ciel étoilé.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando.
por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, 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 quizás.
Ah, pour que ça marche, il en faut au moins trois des quissas. Nat King Cole sur France Inter, CO2 mon amour. Nous partons dans les Hautes-Pyrénées.
Alors Nicolas, on est sorti de cette coupole du 1 mètre, on est en fait sur le petit marchepied et on a une vue, là franchement imprenable, hein, sous les yeux. Bon, c'est peut-être pas la vue idéale parce qu'en fait c'est vue pollution lumineuse.
Alors là, ce que l'on voit, on va dire de gauche à droite, ou alors pour être plus précis et géographique, on va dire d'ouest en est, ouais. On voit l'agglomération du Grand Tarbes, ouais. Donc le plus à l'ouest. Ensuite, on voit à l'entrée de la vallée la ville de Bagnères et au loin la ville de Lannemezan. Et surtout, ce que l'on voit au-delà des villes, c'est que là, on voit aussi l'usage qui est fait de l'éclairage dans ces villes-là. D'une part, on voit que cet éclairage est mal utilisé et qu'il éclaire vers le haut. Tarbes nous apparaît très visible, hein, donc c'est-à-dire que toute cette lumière qui est émise et qui devrait normalement aller sur la rue ou effectivement
on éclaire le ciel,
et bien là ça nous apparaît. Et aussi, si tu regardes bien, l'agglomération du Grand Tarbes, on voit que d'un côté elle est éclairée avec une lumière orangée, et de l'autre côté une lumière un peu blanchâtre. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait sur cette agglomération, on a plusieurs communes et qui ont mis plus ou moins de moyens dans leur éclairage. Et ce que ça met en avant ici, c'est que plus sur notre droite, on a une ville qui a eu moins de moyens et qui a encore un éclairage très ancien, qui a plus d'une quarantaine d'années, qui est très énergivore. Et là où c'est extrêmement intéressant, c'est qu'on peut faire la comparaison du Grand Arbre avec la ville de Berlin. Grâce à l'éclairage, avec une vue satellite, on est encore capable de revoir la délimitation du mur de Berlin grâce aux éclairages. C'est-à-dire que d'un côté Berlin-Est et Berlin-Ouest, on n'a pas les mêmes éclairages et ça suit exactement la ligne de délimitation du mur de Berlin.
Allez, entrez, nous sommes presque dans la piste aux étoiles, en tout cas nous sommes sur ce vaisseau des étoiles dans les Hautes-Pyrénées, au sommet du pic du Midi de Bigorre, pour y rencontrer non pas des allumeurs, mais des éteigneurs de réverbères. Petite pensée à Chancel, là, qui est juste au pied dans son jardin. Et là, nous sommes dans la réserve internationale de ciel étoilé. Alors, c'est une idée, en fait, qui vient du Canada. La première réserve, donc, elle est partie du parc national du Mont Mégantic, au Québec. Et au départ, on s'en doute bien, c'est un peu le combat des astronomes qui, voyant la perte de leur accès aux étoiles, se sont dit, il faut lutter contre la pollution lumineuse. Et puis, donc, ça a pris aussi une ampleur de protection de l'environnement, parce que derrière tout ça, il y a une qualité de vie. Pollution lumineuse qui influe sur notre sommeil, donc notre santé, sur celle des animaux, et puis les économies d'énergie, enfin de l'éclairage, en mettant à genoux notre société de cigales gaspilleuses du monde. Donc on a une dimension environnementale assez complète, et puis on est sur ce lieu magique, hein, cet observatoire, donc avec une construction épique, hein, sans jeu de mots, dans la seconde partie du 19e siècle. Et puis donc c'est un site d'observation qui a failli d'ailleurs fermer, parce qu'il manquait d'argent, et c'est donc le tourisme qui a sauvé donc ce site. Alors de tout là-haut, vous avez le Tourmalet, vous avez donc ce domaine de ski aussi qui est assez incroyable, et Nicolas Bourgeois, que vous avez entendu, qui est un jeune géographe, hein, c'est un thésard de 27 ans. Un type qui est plein d'entrain, hein, qui a fédéré mais vraiment plein de gens autour de ce projet. Et puis on va entendre aussi Sébastien Vauclair qui est astronome. Allez, on baisse un peu l'abat-jour pour qu'on voit tranquillement le ciel. On a 3000 km² là sous les yeux, 65% de la superficie du département avec ces projets d'éclairage en moins. Et on va voir comment ça se passe donc avec Nicolas Bourgeois.
Nous, ce qu'on a voulu, c'est sortir de la simple démarche associative où on vient militer pour le ciel étoilé, où on vient militer pour une pratique, etc. Et on a voulu vraiment faire un projet de territoire. C'est-à-dire que les Hautes-Pyrénées s'approprient cette démarche, que le ciel devienne pour eux une fierté, vraiment on leur apporte une nouvelle dimension, hein, ce ciel étoilé. Et on a réussi à créer par ce projet un sentiment de fierté, c'est-à-dire que les Hauts-Pyrénéens ont ouvert les yeux sur une dimension qu'ils méconnaissaient et qu'ils quasiment ignoraient, c'est-à-dire la nuit. Ce temps entre le coucher et le lever du soleil, qui regorge de magie, de rêves, et ces paysages célestes nocturnes que l'on a révélés par la réserve de ciel étoilé, sont devenus une fierté pyrénéenne. Aujourd'hui, on trouve normal de valoriser le ciel étoilé, de changer des luminaires et de mieux éclairer. Il y a encore 20 ans, où je pense, il y a encore même, allez, osons-le, 5 ans de ça, on nous regardait avec des grands yeux. C'était un projet qui allait dans l'ordre de l'exotisme, de l'abstrait. Aujourd'hui, on est dans la normalité. Alors,
la crise nous a aidés aussi, parce qu'on va avoir une augmentation de 30% de l'électricité d'ici 2020, faut pas se tromper. Et puis, il faut rappeler une chose, c'est que dans la consommation d'électricité d'une commune, l'éclairage représente 30 à 40%.
Elle est due à des choses extrêmement basiques. D'une part, 60% de l'éclairage aujourd'hui est considéré comme techniquement dépassé, vétuste, obsolète.
En général, c'est 50 ans de moyenne d'âge.
Voilà, en moyenne, on est sur une cinquantaine d'années, sachant qu'aujourd'hui, notre parc éclairage, c'est 9 millions de points lumineux. Oui. Donc on est à 4,5 millions de points lumineux qui sont littéralement dépassés.
Et de combien augmente la pollution lumineuse par an ?
On est sur une évolution de 6% par an. C'est quelque chose qui commence même quasiment à être exponentiel, étant donné que le souci aujourd'hui que l'on a, c'est pas forcément la technologie, parce qu'on a une très bonne technologie en éclairage, mais c'est l'usage que l'on va faire de cette technologie. Aujourd'hui, on a les moyens d'éclairer beaucoup en dépensant peu d'énergie, notamment toutes les technologies LED ou même des sources classiques, hein, ce qu'on appelle les lampes à décharge, comme les lampes au sodium, etc., qui sont aujourd'hui très très efficaces énergétiquement parlant. Le problème, c'est que cette efficacité énergétique, elle a un pendant, c'est-à-dire on dépense moins, donc on peut augmenter encore la lumière, vu que ça nous coûte pas forcément plus cher. Et ce qui arrive, vu que cet usage de l'éclairage n'est pas maîtrisé et vient répondre, on va dire, à certains parallèles un peu trop vite faits entre la lumière et la sécurité.
Non, on sait que c'est faux.
Voilà, on sait qu'aujourd'hui, c'est faux et c'est extrêmement compliqué.
De nombreuses études. Vous ne serez pas plus attaqué si vous êtes dans le noir que.
Exactement.
Oui, absolument. Voilà. Et puis les accidents, c'est pareil. Au contraire.
Il y a un ensemble de statistiques. Exactement. Ah, ouais. Les autoroutes belges, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément moins d'accidents, mais qu'ils sont moins graves. On sait aussi qu'au niveau statistique, les vols ont plus lieu en journée que la nuit. Oui. Donc ce parallèle lumière égale sécurité n'est pas aussi évident que ce qu'on pourrait penser.
Alors Nicolas Bourgeois, c'est formidable parce que là, on parle à 3000 mètres d'altitude. On voit ces étoiles qui s'éclairent une à une. Alors c'est extraordinaire ce dialogue parce qu'en fait, beaucoup sont mortes et continuent à nous envoyer donc leur lumière comme ça. Et puis on a évidemment toutes ces constellations. On a évidemment l'étoile du berger, Vénus, qui arrive toujours la première. Hein, c'est à peu près ça. Hein,
Évidemment, elle nous signale toujours l'arrivée des suivantes. Hein, c'est un petit peu celle qui ouvre le bal pour ensuite laisser la place à Saturne, Jupiter, Mars que l'on voit. Parce qu'on est quand même un des derniers endroits dans ces réserves de ciel étoilé ou ces zones de montagne où on se retrouve dans des écrins de ciel étoilé. Et j'insiste sur le mot parce qu'il y a un chiffre qui est important là derrière. C'est qu'on sait aujourd'hui sur le territoire européen, il ne reste plus qu'1% de ciel étoilé pur auquel on peut accéder à l'œil nu.
Sur le territoire européen.
Étalé sur tout le ciel européen. Et on le sait, hein, il suffit de se rendre compte à l'époque où je commençais mes premières photos du ciel étoilé dans les Hautes-Pyrénées, ouais. Et que je les montrais aux gens avec qui j'allais travailler, nos élus et les habitants. Ils me disaient, bon, elles sont super tes photos, mais c'est quoi cette bande laiteuse qu'il y a toujours sur l'image? Et là, au départ, je les regardais.
Il y avait un peu de pédagogie à faire, là.
Voilà, un peu de pédagogie, sachant qu'au début, je pensais vraiment qu'il blaguait.
C'est la Voie lactée, monsieur.
Eh bien, voilà, c'est la Voie lactée. Mais ce genre d'anecdotes, on les retrouve aux États-Unis, hein, lorsqu'il y a eu les grands blackouts. Les standards téléphoniques de la police étaient saturés d'appels signalant des points lumineux inconnus dans le ciel. Ah, oui. Les habitants redécouvraient leur ciel.
Wow, alors là, Sébastien Vauclair, on est avec vous, donc vous êtes astrophysicien, on est toujours évidemment au sommet de ce pic, et alors, ça y est, on a la Voie lactée, on a la Lune qui est apparue, on a assisté à un merveilleux coucher de soleil, enfin non, le soleil ne se couche pas.
Oui, mais là, ce soir, avec la magnifique mer de nuages qu'on a, ça donne vraiment l'impression qu'il va sous sa couette quand même, hein. Depuis le pic, là, il part derrière les nuages tranquillement, confortablement, et si on est quand même... privilégié au pic, puisqu'on a un quart d'heure de soleil de plus que tout le monde. Grâce à la réfraction, on le voit se coucher un quart d'heure plus tard que dans la plaine.
Et voilà. Le matin, pareil. Alors.
Et le matin, pareil, absolument.
Alors Sébastien, parlons quand même d'un organe extraordinaire, parce que notre premier télescope, c'est nous, c'est l'œil.
Absolument, le premier astronome, il date de la préhistoire, en fait. Hein, parce qu'astronome, qu'est-ce que c'est? C'est lever les yeux vers le ciel, voir des trucs bizarres là-haut, des fois qui bougent, et se poser des questions. Allez. Et donc depuis que l'homme est devenu bipède, sa nuque lui a permis de lever les yeux vers le ciel, et là, il a découvert l'univers qui nous entoure. Évidemment, à l'époque, pas de pollution lumineuse, et donc il a découvert cet environnement avec des choses complètement inconnues, des comètes, des étoiles filantes, des choses qui pouvaient faire particulièrement peur. Mais on peut tout à fait imaginer que dès lors, il s'est posé des questions finalement existentielles de l'humanité. D'où on vient? Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'il y a autour? Où on va? Et finalement, les astrophysiciens modernes cherchent toujours à répondre aux mêmes questions.
Alors là, on s'est planqué quand même parce qu'il y a quand même du vent hein, ce soir. Il y en a très souvent ici au sommet du pic. On imagine la galère de ces gens et le rêve pour construire quand même ce pic. C'était fou.
Absolument, ça a été une épopée exceptionnelle. Alors le vent, à la limite, aujourd'hui, on est plutôt bien loti parce que déjà, on a un super ciel étoilé ce soir. Ouais. Pas un poil de nuage, si ce n'est en bas dans la plaine. Et justement, ça nous fait la mer de nuages et ça couvre la pollution lumineuse, donc ce sera idéal. Alors c'est sûr qu'en haute montagne, on n'a jamais tout ce qu'il faut. Donc ce soir, il fait beau, il y a un peu de vent. À l'époque épique de la construction du pic, ce qui était le plus compliqué, c'était le froid, la neige, etc. Il y a toute l'histoire que vous devez connaître hein, de la construction avec les gens qui sont restés bloqués. Ils montaient pendant 15 heures à pied dans la neige, etc., avec de la neige jusqu'au torse. Enfin, ça a été quelque chose d'absolument épouvantable. Hein. Mais voilà le résultat aujourd'hui. On est bien content de pouvoir en profiter encore plus d'un siècle après.
Alors, ce que nous avons sous les yeux, bon, on a quand même notre Voie lactée. On fait partie de la Voie lactée, on le rappelle.
Notre propre galaxie, mais qu'on voit ici par la tranche, donc avec cette Voie lactée, hein, comme la mythologie grecque l'avait appelée. Hein.
Le sein de Junon, c'était ça.
Oui, l'arrachement de Hercule au sein de sa mère. Voilà. Et comme Hercule, c'était un personnage qui était plutôt glouton, hein, il en consommait pas mal du lait. Hein, et donc ça a fait une belle giclée de lait, effectivement, qui a fait cette Voie lactée. Et on doit justement à Galilée le fait de savoir que c'est une myriade d'étoiles et non pas cette fameuse Voie lactée de l'Antiquité. Alors ici, du pic, effectivement, on se rend compte de notre situation, puisqu'on y arrive bien à imaginer ici cette trois dimensions de la Voie lactée avec où on se sent vraiment dedans quoi.
On est dans un décor, c'est assez dingue parce qu'on peut avoir une imagination, on va dire, débordante ici. On a donc ces différentes coupoles qui c'est assez fantomatique.
C'est intéressant cette expression fantomatique, car ici, moi, ces coupoles, je les appelle les fantômes du pic et le chant des fantômes. On entend lorsque le vent souffle, il passe entre les barreaux de ces coupoles, et si on y prête attention, on les entend finalement chanter. Et lorsqu'elles se mettent vraiment à tourner, là, on est vraiment dans le concert que nous donne le pic du Midi, le concert des coupoles.
C'est-à-dire que chacune a sa signature avec le vent.
Exactement.
Donc à son chant particulier.
À son chant particulier, on a 12 coupoles sur le pic du Midi, donc on a 12 voix différentes, donc ça nous fait
12 choristes.
Une belle chorale céleste et astronomique.
Alors Nicolas Bourgeois, vous avez 27 ans, là vous préparez votre thèse, vous êtes géographe de formation. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce projet? Parce que c'est vrai que vous le portez, il y a beaucoup de monde, mais c'est quand même vous qui portez cette affaire. Qu'est-ce qui vous anime profondément?
On sent la magie des Hautes-Pyrénées. On a le pic du Midi de Bigorre, on a cet attachement de tout un territoire sur la démarche. Et la réserve, elle vient finalement matérialiser cet attachement qu'on a à ce territoire, à cette magie du pic du Midi. Et il y a aussi le fait qu'on est quand même sur des territoires ruraux. On est dans des vallées, etc. Et même au fond des vallées, on a quand même des élus qui croient à des projets magiques, des projets de finalement qui paraissent complètement abstraits, voire complètement fous à la base, et qui ont réussi à les comprendre, à les concrétiser. Alors moi, c'est de voir cette émulation positive qu'il y a eu, et c'est de voir ce réseau d'acteurs qui s'est mis à travailler ensemble.
Alors là, Sébastien Vauclair, un très joli croissant de lune. On n'est pas en lune pleine, hein, loin de là.
Non, alors là, on a un tout petit croissant, mais c'est très sympa, justement. C'est les soirées préférées, puisqu'on profite comme ça un petit peu de croissant de la lune dans le coucher du soleil, ce qui est quand même un spectacle particulièrement magnifique. Au passage, Saturne est juste visible maintenant, et Mars aussi, hein, qui est détend, voilà. Mais surtout, ce qui est intéressant avec la lune, parce que la lune, finalement, elle fait, j'ose presque pas utiliser le terme, mais elle fait un peu de pollution lumineuse. Hein. C'est de la pollution lumineuse naturelle, donc on lui en veut pas trop.
Non.
Et puis des fois, elle est pas là. Elle a le bon goût de se cacher de temps en temps. Mais quand la lune est là, par exemple à la pleine lune, bah, c'est clair que la Voie lactée, on la voit quasiment plus, quoi. Hein. Donc là, ce qui est génial avec un premier croissant comme ça, un petit croissant, c'est qu'il va très vite se coucher après le soleil et il va laisser la Voie lactée complètement libre pour nos yeux et on sera tranquille, on la retrouvera demain et on pourra profiter d'une belle nuit comme si c'était la nouvelle lune. Donc ici, vous êtes au pic du Midi dans un hôtel à 2000 étoiles. C'est quand même pas mal dans le classement Michelin.
Vendu. Alors comme on a vraiment le choix, sur quoi on va se pointer, on va dire, ce soir?
Ah, sans aucune hésitation, parce qu'on est au pic du Midi. Et au pic du Midi, c'est quand même un des rares endroits en France où on peut voir la constellation du Scorpion en entier. Et donc on a la Voie lactée qui vient s'écraser comme ça avec le Sagittaire et à côté la majestueuse constellation du Scorpion. Je pense que personnellement, ce sont mes préférés. Avec un tout petit bémol quand même, puisqu'on parle un peu de pollution lumineuse, c'est qu'il y a 20 ans de ça, puisque j'ai eu la chance de venir ici il y a quelques années quand même, on voyait la Voie lactée, en fait on voyait le Néouviel en ombre chinoise devant la Voie lactée. C'est-à-dire qu'on voyait vraiment, on arrivait à distinguer l'ombre chinoise des montagnes et on arrivait à dire quelles étaient les montagnes par l'ombre chinoise sur le fond de Voie lactée. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne voit plus.
Non, plus de ça a disparu lumineuse.
Parce qu'on voit la pollution lumineuse espagnole qui fait une espèce de bandeau un peu orangé, même pourtant il y a toute la chaîne des Pyrénées entre nous quand même, hein. Mais on voit cette espèce de bandeau orangé
voit, là, ouais.
Et la Voie lactée vient en fait s'estomper petit à petit dans ce nuage de pollution lumineuse avant malheureusement d'atteindre les montagnes et le Néouviel. Donc ça c'est quelque chose qu'on a perdu et avec ce projet de réserve de ciel étoilé, on espère le retrouver dans les années à venir.
Ouais.
Et de la fenêtre, la petite fenêtre qui nous est ouverte, puisque je vous rappelle que l'atmosphère, elle laisse ouverte une toute petite fenêtre qui est minuscule au regard de toute la lumière, hein, le spectre électromagnétique. Et cette toute petite lumière-là auquel nos yeux d'êtres humains sont sensibles, eh bien, c'est justement la seule lumière qui traverse l'atmosphère. Donc il y a une très grande fragilité aussi, là. Notre vaisseau spatial, la Terre, est déjà fragile, on le sait, pour plein d'autres raisons. C'est CO2, mon amour, on en parle régulièrement. Mais là, il y a en plus cette toute petite fenêtre, même une lucarne, je dirais, que l'atmosphère laisse pour que nos yeux d'êtres humains puissent voir les étoiles. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire avec cette pollution lumineuse? On ferme la fenêtre.
Alors Nicolas Bourgeois, toute cette opération, toute cette affaire, c'est aussi un homme qui l'a un peu résumé, qui est Hubert Reeves, en disant en fait il faut rouvrir les étoiles.
Exactement, il faut rouvrir les étoiles et j'aime bien la formule qu'il a utilisée parce que finalement avec la lumière, nous nous sommes enfermés. La lumière, lorsque on le voit hein, du pic du Midi, il suffit de regarder la ville de Toulouse que l'on voit au loin, qui est quand même à 130 km à vol d'oiseau d'ici.
C'est vrai qu'on la voit.
Et on la voit en lumière directe. Et si on regarde bien au-dessus de Toulouse, eh bien on voit un halo qui forme comme une bulle, une sphère, qui vient enfermer la ville et qui la met sous cloche. Nous nous sommes enfermés sous des cloches de lumière qui nous coupent en fait de cette connexion que nous avons avec l'univers, avec les étoiles et de ce lien ancestral que défend Hubert Reeves.
Nicolas, il y a aussi les oiseaux migrateurs.
Effectivement, un oiseau migrateur a besoin des étoiles pour s'orienter. Il les utilise comme un repère, comme nous pourrions utiliser une carte. Le problème, c'est que cette carte, eh bien, elle est voilée par les immenses halos que forme la lumière des villes. Là, ici, on est au pic du Midi, on est dans le stéréotype de ce phénomène. En avant de la chaîne, à 3000 mètres d'altitude, on voit la plaine devant nous. On voit ces immenses bulles que forment les halos lumineux. Et derrière, les étoiles ont disparu. Les oiseaux, avec ce phénomène, sont complètement soit désorientés, soit déviés, soit complètement aveuglés et viennent s'écraser directement dans les immeubles. L'autre exemple dont on parlait juste avant, les tortues. lorsque les bébés éclosent et sortent du sable, utilisent le reflet des étoiles sur la mer pour se diriger vers la mer et rejoindre l'océan ou la mer. Le problème, c'est que maintenant, les villes scintillent beaucoup plus que l'océan. Et les tortues, au lieu de se diriger vers la mer, se dirigent vers les villes. Et donc, on a une mortalité sur les tortues qui est en constante augmentation à cause de cette augmentation de la lumière et de la pollution lumineuse.
Et qui n'en a pas besoin parce qu'il y a déjà assez de prédateurs naturels. Hein, donc...
Effectivement.
On va se quitter, Nicolas, parce que... Alors d'abord, il n'est pas loin de minuit, donc on est quand même un peu claqué. Et puis, malgré tout, à 3000 mètres d'altitude, il y a un peu de vent là. Hein, donc,
N'est-ce pas, il y a un peu de vent. Et je pense qu'on peut finir aussi sur une touche en regardant TDF, en regardant ce qu'on a juste au-dessus de TDF. On entend souvent autour des Pyrénées un débat un peu polémique sur le fait qu'on soit un peu ou contre l'ours. Mais quand on voit notre fameuse grande ours et la petite ours, nous en avons des ours dans les Pyrénées, regardez. Et on les protège même.
Et donc c'est grâce à cette antenne de TDF que vous nous recevez aujourd'hui. Alors, bon, vous l'avez compris, ça j'ai tourné, il n'y avait pas encore de neige. Aujourd'hui, il y a de la neige, mais absolument partout, quand on sort. Ouh là là ! Mais c'est vraiment, c'est extraordinaire. Alors ça marche bien, hein, parce que sur les 40 000 points lumineux au sol, maintenant vous en avez près de 10 000 qui ont été convertis. Et puis, aussi bien la Société du Pic, le Parc National des Pyrénées, le Syndicat départemental d'électricité, tout ce petit monde-là, donc travaille très très bien. Donc voilà. Donc et puis un Frédéric Denré, on voit un jeune comme ça, Nicolas Bourgeois, enfin qui entraîne tout le monde, c'est formidable quoi.
Oui, et puis il dit quelque chose d'essentiel, c'est que les animaux, c'est que la nature peut être perturbée par trop de lumière à tel point qu'aujourd'hui on considère que le trop de lumière pour certaines espèces constitue un mur. Exactement comme une autoroute vient fragmenter un milieu naturel. Et donc, par exemple, dans les Pays de Loire, dans le cadre de ce schéma régional de cohérence écologique, les fameuses trames vertes et bleues, les continuités écologiques, on est en train d'intégrer la lumière des villes le soir de façon à ce que ces trames vertes et bleues restent réellement des trames vertes et bleues la nuit. Elles deviendront des trames nocturnes. Tout ça est poussé par une association. C'est l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne qui délivre quelques labels qui s'appelle Villes et villages étoilés. Il y en a 183 en France sur 36 000 communes. Ça fait pas beaucoup, mais quand même, c'est la région Pays-de-Loire et la région Bourgogne qui tiennent le pompon. Et donc les maires s'engagent avant tout pour une question d'économie à réduire le nombre de lampes à l'extérieur. C'est 50%, ça va jusqu'à 50%.
Oui, ça peut jusqu'à 50% d'économie.
Et du coup, la biodiversité revient et calme notamment les chauves-souris qui s'en trouvent fort contentes.
Voilà, donc devenez vous aussi un peu des éteigneurs, en tout cas orientez mieux vos réverbères. Et ça fera donc du bien absolument à tout le monde et aussi au portefeuille de votre municipalité. Nous allons tout à l'heure parler de financiarisation de la nature. Nous allons parler aussi avec Terre Sauvage de l'art et de la nature, donc un lien essentiel. Et puis on reviendra aussi avec vous Frédéric. Ce sera juste après les Brigitte. Non, Brigitte, je crois que... Bref, à bouche que veux-tu, elles sont deux.
Je brûle de nous imaginer le vin et les chansons d'amour en sucre me font toujours autant d'effet. J'ai peur.
Bouche. Oui, que veux-tu donc ? C'était Brigitte sur France Inter. Vous êtes bien sur CO2, mon amour, votre magazine de nature et de l'environnement. Je reprends mon souffle. Combien vaut la nature ? Donnons-lui un prix et donc combien peut-elle rapporter ? Et on sait que la finance est formidable. Recycle tout, biodiversité incluse. Alors, il n'y a pas de raison. Les marchés n'aiment ni l'abondance, ni la gratuité. Mais avec la raréfaction des ressources et la disparition programmée de certaines espèces, l'équation a changé. Et oui, les banques et fonds d'investissement responsables de la dernière crise prétendent renverser la tendance et sauver la planète en la protégeant de leur façon. Avec de l'argent. Pyromane, oui, mais pompier aussi, figurez-vous. Et donc, le mardi 3 février, à 22h25 sur Arte, il y a un formidable documentaire qui s'appelle « Nature, le nouvel Eldorado de la finance ». Il est signé Denis Delestrac et vous, Sandrine Fedel. Donc, qu'avez-vous souhaité faire à travers cette « Nature, le nouvel Eldorado de la finance » ?
On a voulu montrer un hold-up planétaire qui est en cours. Et dont peu de gens ont conscience. On s'est rendu compte que de plus en plus de banques d'affaires, de fonds d'investissement s'intéressaient aux ressources naturelles et disaient vouloir les protéger. C'est sûrement très sincère pour certaines, mais on a aussi vu les dérives qui pouvaient avoir lieu. On s'est aussi rendu compte à quel point ça pouvait être lucratif, à quel point c'était des nouveaux marchés qui étaient naissants. Et on a voulu déjà les expliquer comment on pouvait faire de l'argent avec la protection de l'environnement. Et on a aussi voulu expliquer quels étaient les dangers auxquels la nature allait faire face, mais aussi auxquels les hommes déjà allaient faire face.
On pourrait aller imaginer jusqu'à acheter des actions mouches, des actions orang-outan, des actions saumon.
Alors ça, c'est la conclusion. Vous allez directement à la conclusion, mais ça, c'est effectivement cela. C'est-à-dire que pour certaines personnes, protéger l'environnement, c'est mettre en bourse, c'est les mettre sur des marchés. Et si on arrive à se faire des portefeuilles d'actions, des portefeuilles de titres avec des espèces en voie de disparition, on va pouvoir à terme sauver, selon ce qu'ils pensent, la nature. Donc oui, il existe déjà des titres mouches, des titres orang-outans, et certaines personnes sont en train donc de monter des fonds d'investissement pour faire des portefeuilles de ce type d'actions-là, de la jungle de Bornéo, des actions de la jungle amazonienne, et se constituer donc ce portefeuille-là.
Ce que l'on voit bien aussi, Sandrine Fedel, c'est que d'un côté, on se dit on va pouvoir faire du fric sur la nature, sur l'environnement, et puis de l'autre, pouvoir continuer à polluer comme avant.
Ce que certains économistes nous ont expliqué, des professionnels qui sont en faveur de ces marchés de l'environnement, c'est que pour eux, si on n'arrive pas à sauver la planète, si on n'arrive pas à sauver l'environnement, c'est parce qu'aucun prix n'est attribué. On détruit parce que les États, les multinationales, les entreprises ne se rendent pas compte de la valeur de la nature qu'elles sont en train de détruire. Or, si on met un prix, peut-être que ces entreprises-là vont se rendre compte à quel point ce qu'elles détruisent a de la valeur.
Ça veut dire que actuellement, il y a donc de grandes firmes qui sont en train d'acheter des lieux aujourd'hui qui sont protégés.
Ce qui se passe surtout, c'est ce qu'on appelle les marchés de la compensation. En deux mots, aux États-Unis, ça fait déjà une trentaine d'années que ce sont des banques spécialisées appelées biobanques, qui protègent les espèces en voie de disparition, les espèces en voie d'extinction. Et c'était assez restreint aux États-Unis pour l'instant, et on se rend compte que ça commence à s'internationaliser. Donc nous, on a filmé aussi la plus grande biobanque qui existe au monde et qui essaie de protéger une partie de la forêt de Bornéo. Et on montre que, au-delà de sûrement de bonne foi de certains d'entre eux, il y a des dangers sous-jacents qui sont du même ordre que ce qu'on a connu lors de la dernière crise crise économique en 2008-2009.
Alors on vous écoute, on se dit mais c'est complètement dément, mais comment nous, citoyens, on peut agir ?
À la différence de la crise économique, je dirais, qui a commencé en 2008-2009, où il y avait vraiment que des personnes, des spécialistes éclairés qui avaient les clés pour comprendre ce qui se passait, aujourd'hui, on est plus à même de comprendre ces mécanismes financiers-là. Donc nous, on montre vraiment sur quel levier agir, et puis il y a un certain nombre d'associations aussi, hein,
bien sûr,
qui commencent à se battre contre cette financiarisation de la nature, qui commencent aussi à proposer des solutions, et je pense que déjà le fait d'être informé, on est assez en amont. Ce film, il arrive assez tôt, quelque part. Il n'arrive pas après une catastrophe. Il arrive en amont, où on est capable, justement, de montrer, d'expliquer et de dire aux téléspectateurs, aux gens qui vont le voir, voilà ce qui est en train de se passer, voilà ce qui peut se passer. Et donc, on est vraiment à un moment là, surtout qu'il va y avoir la conférence sur le climat à la fin de l'année en France. Donc, c'est au contraire tout à fait un moment pour pouvoir agir dans ces différents endroits.
Nature, le nouvel Eldorado de la finance, c'est sur Arte, donc le 3 février, mardi à 22h25, et puis vous avez la plateforme Arte plus 7, hein, c'est une semaine gratuite, et aussi c'est intéressant pour pouvoir écouter Frédéric Dombé. Donc là, ces propos, on va dire, assez édifiants, enfin, malheureusement on les connaît parce qu'on les a déjà un petit peu moulinés dans CO2 Mon Amour, d'autant que vous aviez écrit à l'époque un livre, vous étiez très en avance d'ailleurs là-dessus, c'était La nature, combien ça coûte, et vous le disiez déjà tout ça à peu près en 2009, je ne sais plus.
En 2009, oui. Bah, j'étais parti de l'exemple, du double exemple à la fois du marché du carbone et de cette notion très anglo-saxonne qui arrive en France des services rendus par la nature auxquels on accorde une valeur qui est la valeur de la perte, par exemple, de la capacité d'un sol à épurer les eaux convenablement, la valeur d'un troupeau d'éléphants qui ramène des devises touristiques. Donc, quand on perd, on sait ce qu'on perd. Et ça, on est capable de l'évaluer. Et donc, j'avais écrit que, de toute façon, après le carbone, ce sera forcément la biodiversité parce que c'est elle qui est la plus menacée et on est dedans. Alors, il faut bien comprendre, sans entrer dans les détails parce que c'est très complexe, ce sont les mêmes produits financiers que ceux qui ont précipité la crise en 2008, c'est-à-dire des obligations, par exemple, dont le risque est dilué dans tout le monde financier par ce qu'on appelle la titrisation. C'est-à-dire que vous avez un produit financier, vous le coupez en de multiples tranches que vous vendez à n'importe qui. À la base, il faut bien comprendre que c'est surtout une logique d'assurance. C'est-à-dire, moi, pays, moi, entreprise, j'ai besoin de tel écosystème. Cet écosystème, si je le perds, je perds autant en chiffre d'affaires, donc je m'assure contre ce risque. Et les assureurs, eux, se réassurent justement en fabriquant et en diffusant dans les marchés financiers leurs produits d'assurance, ils les titrisent. Voilà. Le système est très complexe, mais on est aujourd'hui, le Costa Rica a déjà fait ça, le Mexique a déjà fait ça, pour s'assurer contre les conséquences très concrètes pour certaines villes, de l'érosion des sols, par exemple.
C'est un monde formidable.
Enfin, c'est un monde, mais le système capitaliste peut mettre de l'argent, un prix à tout. Alors, juste un petit bémol, aujourd'hui, on est capable de donner un prix à tout et on est capable aujourd'hui de donner une valeur presque morale à ce qu'on appelle des actifs naturels. Je pense pas qu'on... Mais oui, ce que je veux dire, c'est que je pense pas qu'on puisse aller jusqu'à une monétarisation de toute la nature, parce que c'est beaucoup trop complexe.
Je précise pour vous éviter des mails, enfin, c'est pas ce que vous souhaitez, vous. C'est
vraiment
vous expliquer ce qui se passe. Hein, voilà.
Il faut bien comprendre que ce système-là permet à chacun de comprendre la réalité de la nature. Malheureusement, dans un système capitaliste, le signal prix parle à tout le monde. Simplement, il faut surtout que ce signal prix échappe aux mains des financiers.
Bon, écoutez, et là, on n'a pas de signal prix, parce que justement, ça va nous faire une très belle liaison avec Terre Sauvage, qui sort dans ce numéro du mois de février. L'art et la nature, un lien absolument essentiel. Voilà, alors, Éric de Kermel, merci à vous, parce que vous êtes responsable des revues, dont Terre Sauvage, on va dire, de patrimoine, comme Alpes Magazine, Pyrénées Magazine, et Bretagne Magazine, et puis Terre Sauvage. Et alors là c'est une revue qui est très bien, parce que d'abord... J'ai presque dire qu'on retrouve le souffle des origines. On part des Michel-Ange de la préhistoire, donc on part de la grotte Chauvet. On va passer par le romantisme, on va passer par les impressionnistes. Donc, qu'est-ce que vous avez voulu faire ? Donc, c'est vraiment ce mot de lien qui est essentiel.
Oui, effectivement, c'est un numéro un peu décalé par rapport à ce que fait Terre Sauvage habituellement. Et ce qu'on a eu envie, c'est d'explorer cette relation entre l'homme et la nature via l'art. Et il y a quelque chose de merveilleux dans cette histoire. C'est que, comme vous le disiez, on est parti de la grotte Chauvet, on arrive jusqu'à aujourd'hui avec le Land Art. Et en fait, on se rend compte que les hommes ont interprété la nature et parfois ont su dire en silence, via leurs œuvres d'art, via leurs tableaux, via leurs sculptures, des choses qu'on n'arrive peut-être pas à exprimer aujourd'hui avec les mots.
Oui, et lorsqu'on est dans le romantisme, par là qu'on peut citer aussi bien Turner, Lamartine, Beethoven, enfin j'en oublie pas mal, ça devient véritablement le miroir des états d'âme de l'artiste. Et puis après, donc, on arrive avec l'atelier en plein air des impressionnistes que nous connaissons. Donc là, on est au contact, on va dire, de la lumière réelle. Et donc, ils inventent un nouveau langage. On a cette première réserve aussi naturelle de Barbizon, qui au départ est une réserve esthétique, hein, donc, qui est là. Il y a plein de lieux, d'ailleurs, qui sont très intéressants.
Oui, il y a plein de lieux. C'est-à-dire que je crois qu'on peut... Il y a plein d'initiatives qui sont prises en France à ce sujet-là, entre les plus petites, comme le sentier L'Aiguillon d'Arc, qui est à Lussan, jusqu'à celles qui sont peut-être les plus installées aujourd'hui, mais qui sont tout autant remarquables, comme le festival Peuple et Nature de l'Agassiz, qui oui. met en avant des photos chaque année de façon exceptionnelle.
On va essayer d'y aller, tiens, cette année. On va tenter le coup.
Ça vaut la peine. Ouais. Et en particulier, là, on fait un zoom sur deux territoires qu'on a particulièrement appréciés. Le Puy de Sancy, où il y a des dizaines de kilomètres qui sont parsemés d'œuvres d'art, qui ne peuvent se faire qu'à pied. Certains connaissent la réserve géologique de Haute-Provence, bien avec sûr. Le travail d'Andy Goldworthy sur ce territoire. Les jardins de Chaumont, qui chaque année donnent la parole à des artistes jardiniers. Et c'est un peu tout ça qu'on a voulu raconter, mais il y a dans plein de lieux en France la possibilité de vivre comme un promeneur la relation entre art et nature.
Et puis bien sûr, il y a, les animaux sont partout, en particulier avec les baissières des siècles. Alors ça va aussi bien des animaux qui sont ciselés dans la pierre des cathédrales, qui sont dessinés sur les murs des pyramides. Donc ils font partie vraiment du décor depuis la nuit des temps. Donc c'est, on le sait, hein, ces animaux, c'est l'incarnation donc à la fois des dieux, des symboles de vices, de vertus. Donc c'est tout ça qui est merveilleusement détaillé dans ce numéro de Terre Sauvage. Et puis il y a aussi quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur. C'est un concours que vous organisez pour la 4e année qui s'appelle l'Arbre de l'année. Bon, donc en fait, c'est quoi ? C'est du Miss France des arbres, quoi,
vous pensez ? Voilà. Ouais. On peut un peu résumer ça comme ça. Oui. En fait, ce qu'on a découvert, c'est à quel point, enfin découvert entre guillemets, c'est à quel point les hommes sont attachés aux arbres et à quel point on a chacun un arbre dans notre vie. Et en ce moment, on est dans la partie du concours où on propose à tous ceux qui le souhaitent de présenter la candidature d'un arbre à l'élection de l'Arbre de l'année.
Alors quand vous dites, pardonnez-moi, tous ceux qui le souhaitent, c'est particuliers, collectivités, associations,
particuliers, municipalités, avec trois critères en fait qui sont retenus par le jury. Un premier critère qui est le critère esthétique, un deuxième critère qui est le critère lié à la biodiversité, c'est-à-dire quelle est la biodiversité hébergée par cet arbre et est-ce qu'il est effectivement lui-même un acteur de biodiversité. Et le troisième, qui est peut-être le plus original, c'est quelle est la singularité de l'histoire des arbres avec les hommes. Et du coup, c'est la beauté de ces histoires-là qu'on a envie de mettre en avant via ce concours.
Donc www.arbredelannee.com, arbre au singulier, hein, arbredelannee.com, on respire jamais, vous savez, comme ça. Et donc je vous renvoie à ce numéro de Terre Sauvage, donc art et nature, un lien essentiel, Chauvet, les impressionnistes, les romantiques, les jardins, le land art, donc dans ce numéro de février. Je tiens à remercier Jérôme Boulet, notre assistant, Christophe Imbert qui a réalisé l'émission, je n'oublierai pas Albert Houck, Thierry Dupin qui a choisi les disques, Anne Gouzon. Alors le site de CO2, enfin, c'était un peu complexe, remarquez, ces derniers temps sur le site on fait ce qu'on peut, on donne un grand coup de pied dedans pour que ça marche, et ça, pas tous les coups, mais a priori, bon, allez dessus, le podcast fonctionne, voilà, ça c'est aussi extrêmement important, donc ça marche bien. J'ai essayé de converser, essayé dessus, hein, si ça fonctionne, bah, tant mieux, si vous voulez laisser des messages. Alors les autres messages, 01, on n'en passe pas forcément toutes les semaines, mais on les regroupe, la semaine prochaine il va y en avoir, 01 56 40 40 35, 01 56 40 40 35. La semaine prochaine, normalement, c'est Vandana Shiva quand même dans cette émission. Ben oui, voilà, donc on les aime bien, les lanceuses d'alerte depuis très longtemps. Et cette femme, donc, elle nous racontera un peu son histoire. Donc Vandana Shiva, cette formidable indienne. Et puis, alors l'Atelier du Montilou, vous le savez, c'est demain à 19h54. Le bol de nature le vendredi matin, c'est à 6h25 chez Delvaux et Boulet. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc un très très bon week-end.